Voilà, on est le mardi 20, on est à la page 20 du Tania. On est le 9 décembre, le 12 qui se lève. On reprend le Tania à la page 20, l'Ikuté Amarim. On est un petit peu après le milieu du texte. On réenchaîne sur la fin du cours de la semaine dernière. Et je reprends. Aval kol ma she'eno batel etzlo idbarach. Et là où davar nifrad bifne atzmo, eno mekabel chayut mekdushato shel hakadosh baruch hu meprinat pnimiut hakdusha umauta veatzmuta. On avait donc expliqué que une chose qui n'est pas batel à Dieu, qu'on va traduire en français par une chose qui n'est pas connectée à Dieu. Pourquoi je traduis par connecté d'abord? Parce que comme vous le savez, c'est une expression qui m'est chère. Et je la préfère à une expression, une traduction beaucoup plus littérale qui est s'annuler à. Généralement, on traduit le mot batel par s'annuler à Dieu. C'est une traduction qui est fausse, qui est extrêmement imprécise et qui ne traduit pas du tout l'idée que les maîtres ont voulu transmettre dans cette expression. Batel ne s'agit absolument pas, ne signifie pas s'annuler, parce qu'en français, quand on dit s'annuler, on entend le mot nul, et on comprend quelque chose qui est inactif, qui est passif. Or, le plus grand exemple de l'homme batel qu'on a dans la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qui est un superman, qui est un géant d'action, de faire, d'aller, de venir, de let my people go. C'est un homme d'action comme aucun film au monde ne peut imiter. Et pourtant, c'est l'homme le plus batel du monde. Ce qui prouve donc bien qu'on ne peut pas traduire le mot batel par annulation. C'est une connotation qui, d'ailleurs, qui transpire les autres religions qui n'ont rien compris à ce qu'est véritablement une relation avec Dieu. Pour nous, batel signifie se connecter à. Et donc on comprend que justement, quand tu es connecté, tu prends des forces inimaginables. Mais quelqu'un qui est connecté à la plus grande prise d'énergie qui existe au monde, qui est Dieu lui-même, vous imaginez la pêche qu'il va avoir. Donc automatiquement, batel signifie être connecté à Dieu. Maintenant, pour se connecter à Dieu, il y a oui une certaine forme, on pourrait dire, de soumission et d'annulation à la française, parce que si on reprend l'exemple d'une connexion telle que nous on le connaît, eh bien, on doit, d'une certaine manière, se soumettre à des règles. Par exemple, ici, dans cette pièce-là, il n'y a pas des trous partout qui nous permettent de nous connecter à l'électricité. Il y a un endroit ou deux endroits où là, on a décidé que le courant passe. Et si ce n'est pas là-bas que tu vas brancher ta prise, eh bien, tu ne seras pas connecté. Donc, tu dois te soumettre à des règles qui signifient que tu dois avoir un certain type de branchement à un tel endroit et que tu ne peux pas non plus brancher n'importe quoi et n'importe qui. De la même manière, la Torah nous explique quelles sont les règles du branchement à cette pile infinie qui s'appelle Dieu. C'est bon, je m'excuse pour la traduction, pour l'appellation pile, mais c'est pour mieux qu'on comprenne. À partir du moment où tu as respecté les règles, qui sont les 613 mitzvot, à ce moment-là, tu te connectes et tu deviens un super-homme. Tu deviens un superman. Et si tu vois que dans ta vie, tu n'es pas un superman, qu'en irait que tu n'es pas vraiment connecté? Qu'est-ce qui fait qu'un rabbi est un rabbi et qu'il arrive à travailler 30 heures par jour? Comment c'est possible? Parce qu'il est connecté. Qu'est-ce qui fait que moi et vous, on est ce qu'on est, après une heure de travail, on va dormir 10 heures? Parce qu'on est ce qu'on est. Mais quelle est la différence entre lui et nous? La différence, c'est que lui est branché et nous, on n'est pas branché. Ah monsieur, objection, moi aussi je suis branché, je mange kasher, je fais shabbat, etc., etc. À ce qu'en irait que c'est pas si évident que ça? Et qu'il ne suffit pas uniquement de mettre un morceau de fer dans la prise, et il faut que ça soit un morceau de fer qui correspond à toutes les normes d'une prise électrique. Ce qui veut dire en bon français que c'est vrai qu'on fait les mitzvot, mais on ne les fait pas véritablement comme on devrait les faire. Et c'est pour ça que nos connexions ne sont pas aussi parfaites que les connexions d'un grand sadique qui, lui, dès qu'il se branche, paf! Comprenez? Donnons un exemple très simple, qu'on peut expérimenter tous les jours. D'accord? Je l'ai déjà donné cet exemple à plusieurs reprises. Shema Israël. D'accord? On fait Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Très bien. Une minute après, on entend que l'Iran menace Israël. Oh là là, qu'est-ce qu'on va devenir? Oh là là. Peut-être qu'il serait temps de songer à faire nos, nos bagages, et puis où ça nous met mal, mauvaise humeur, on a des peurs, des angoisses, etc. Mais toi, je ne comprends pas. Tu viens de dire, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Si tu viens de dire que tout est entre les mains d'Hashem, pourquoi tu as peur? Donc si tu as peur, tu ne viens donc pas de dire Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Oui, mais si je l'ai dit, est-ce qu'on dirait que tu l'as mal dit? Parce qu'il ne suffit pas de le dire, il faut encore l'intégrer, le vivre, etc. Donc c'est un exemple simple qui montre qu'on fait des tas de choses, mais la connexion ne se produit pas parce qu'on ressemble à quelqu'un qui veut s'entêter à allumer une lumière avec un morceau de bois mis dans la prise. Ça ne marche pas, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc ça, c'est la notion de battel. Maintenant, tout ce qui n'est pas battel, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On reprend le texte. Eno mekabel chayut megdushato shel hakadosh baruch hu meprinat pnimiut hakdusha. Quand tu n'es pas batel, c'est-à-dire que tu n'es pas connecté, tu ne reçois pas de Dieu meprinat pnimiut hakdusha. Tu ne reçois pas de l'intériorité du divin. Que signifie l'intériorité du divin? Ça signifie que tu ne reçois pas face à face. Vous savez qu'en hébreu, le mot visage se dit panim, qui signifie aussi pnimi, qui signifie intériorité. Le mot visage est le même mot que le mot intériorité. Et donc, dire que tu ne reçois pas de l'intériorité du divin, c'est dire que tu ne reçois pas de son visage. Alors, qu'est-ce que ça signifie, tu ne reçois pas de son visage? Ça fait allusion, hein, je répète plus ou moins le son de la semaine dernière, ça fait allusion à ce qui est dit dans un autre endroit dans la Torah au sujet de l'exil. Bayomahu aster astir panay me'em. Ce jour-là, voilé, je voilerai ma face de ve'aya le'echol et ils seront dévorés. Donc, que signifie voiler ou montrer sa face? Alors, on a donné un exemple extrêmement simple. Je ne vais pas insister puisque je ne vais pas refaire tout le cours de la semaine dernière. Il y a deux manières de recevoir dans ce monde. Il y a une manière où tu prends conscience de celui qui te donne, tu connais celui qui te donne, la source est visible, il y a un face-à-face entre toi et la source qui te donne. Et il y a une manière de recevoir où tu ne sais pas du tout qui te donne. La source t'est cachée. Exactement de la même manière par rapport à Dieu. L'homme peut recevoir et savoir qu'il reçoit de Dieu. L'homme peut recevoir et ne pas savoir qu'il reçoit de Dieu. Penser que ça lui vient de lui, par ses propres mérites, par ses propres efforts, par ses propres actions. Quelle est la différence entre les deux? Vous me direz, l'essentiel, qui c'est qui aura le premier, la peau du Rav Dinovitch. Le dernier qui éteindra son portable quand il rentre dans le cours. D'accord. Vous voulez ma peau? Continue. Parce que moi je suis après des heures de travail. J'ai pas commencé la journée avec vous. Je ne vous dirai pas à quelle heure je l'ai commencé. Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai fait déjà. Quand j'arrive à ce cours-là et que vous laissez vos portables, vous me tuez. Alors ayez la gentillesse quand vous rentrez dans le cours de laisser mon ennemi juré à l'extérieur, c'est un portable ouvert. Merci beaucoup. Et donc, je m'excuse de vous le dire avec tellement de force, mais si vous saviez comme ça me fait du mal, vous les éteindriez déjà avant de sortir de chez vous. Et je reprends le cours maintenant. Et qu'est-ce que j'étais donc en train de dire? Ben, je ne sais plus, justement, à cause des portables. Et donc, voilà. Donc, quelle est la différence entre celui qui reçoit du visage d'Hachem et celui qui ne reçoit pas du visage d'Hachem? La différence est que celui qui reçoit du visage d'Hachem, à ce moment-là, aura la bracha, et celui qui ne reçoit pas du visage d'Hachem aura la klala, la malédiction. Bénédiction et malédiction. J'ai encore rien expliqué, vous allez voir, petit à petit. Et quelle est la différence entre une bracha et une klala? C'est la différence qu'il y a entre le serpent et nous. Le serpent a été maudit. Et c'est quoi la malédiction du serpent? C'est qu'il n'a aucune possibilité de savoir qui lui donne, d'où il reçoit. Pourquoi il ne sait pas d'où il reçoit? Parce qu'il rampe à terre, il ouvre la bouche, Et au fur et à mesure qu'il avance, il est nourri. Et donc comme il ne fournit aucun effort pour être nourri, et que sa nourriture est gratuite et facile, automatiquement il n'a pas besoin de prier, il n'a pas besoin de supplier pour recevoir, et il est donc complètement déconnecté de Dieu dans ce don-là. Et la Torah appelle ça une malédiction. Alors ça, je sais que je l'avais dit la semaine dernière, par contre, je n'avais pas expliqué en quoi c'est une malédiction. Pourquoi, après tout, recevoir sans savoir que ça vient de Dieu? Pourquoi c'est une malédiction? Pourquoi seul celui qui sait que c'est Dieu qui lui donne, celui-là est béni? Vous me direz, après tout, on s'en fiche, ce qui compte, c'est de recevoir. Et surtout que le Nahash reçoit plus que n'importe lequel d'entre nous, puisque lui ne fait aucun effort. Il ouvre la bouche et partout où il est nourri et il est rassasié. Alors pourquoi c'est une malédiction? Alors, la réponse est donnée par les maîtres du Talmud. Et ils disent, la malédiction du Nahash, c'est que chaque chose qu'il mange, bon, on n'est jamais entré dans la peau d'un Nahash, d'un serpent, pour savoir si c'est vrai, mais peu importe, de toute façon, on s'en fout, ce qui compte, c'est l'idée qui est derrière. Ils disent que chaque chose qu'il mange a le même goût. Tout a le goût de la poussière. Toen ta'am afar bechol davar. C'est pour ça qu'il est dit ve'afar tochal kol yemechayecha. Tu mangeras la poussière tout au long de ta vie. Les maîtres posent la question, mais attends, je ne comprends pas, mais un serpent ne mange pas que de la poussière. Il mange des insectes et un boa mange même une brebis ou une gazelle. Même un homme, alors pourquoi que de la poussière? Alors ils répondent, quelle que soit la chose qu'il mange, ou toem ta'am afar, toutes les nourritures ont le même goût. Alors, bien sûr, quel est le Nimshal? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Il veut nous faire comprendre la chose suivante. Il existe des êtres sur terre qui ont beaucoup, mais leur existence n'a pas de goût, elle n'a pas de saveur. Quoi qu'ils reçoivent, c'est toujours le même goût, au point qu'ils se lassent et ils sont dans un état de dégoût. Et ça, on le voit autour de nous, c'est que ce qu'on voit autour de nous. On voit précisément autour de nous que souvent, ceux qui en ont le plus, c'est ceux qui ont le moins de goût à l'existence. Et les gens modestes, qui n'ont que ce qu'ils ont, savent trouver un goût à l'existence. Ils savent arranger une maison, ils savent arranger deux pommes de terre et un oignon. Ils savent comment donner un goût extraordinaire à l'existence. Alors que d'autres, avec énorme, ils sont toujours là. Moi, on connaît déjà, moi, on a déjà été dans ce restaurant, on connaît, c'est nul, c'est bidon. Ce parfum, tu m'as déjà acheté 10 fois. Ce bijou, la semaine dernière, tu as fait mieux, etc. Donc, c'est ça la malédiction. Donc, Bekitsu, il n'y a aucun plaisir de l'existence. Au point que finalement, on crève à l'intérieur de soi. Ça, c'est la malédiction. Alors maintenant, la seule possibilité pour être béni, c'est avoir un véritable sipouk de ce qu'on a, avoir une véritable simcha et joie de ce qu'on a, c'est uniquement quand tu es en connexion avec Hachem. Si tu n'es pas en connexion avec lui, c'est fichu. Donc on continue. Et donc, Eno mekabel chayut megdushato shel akadosh baruch hu, meprinat pnimit akdusha, umauta, veatsmuta. Tu ne reçois pas, quand tu es déconnecté de Dieu, tu ne reçois donc pas de l'intériorité de sa kdusha, de sa sainteté, de son essence, birvoda ou beatsma, elle-même. Et là, alors d'où tu reçois? Tu reçois meprinat achoraim, tu reçois de ce qu'on appelle, ce sont bien sûr des termes codés, il ne faut pas le comprendre à la lettre, c'est uniquement des codes qui font allusion à des notions plus profondes. Et là, meprinat achoraim, tu reçois de son extériorité, comme quelqu'un qui donne à manger à une personne en lui tournant le dos. Il ne veut pas le face à face, il se sent obligé de lui donner, alors il lui jette par l'arrière sans le regarder. Et là, meprinat achoraim, sheyordim mi madrega le madrega, parce que le flux divin qui arrive à cette personne descend de niveau en niveau, revavot madregot, une infinité de niveaux, beishtal shelu taolamot, en descendant, on pourrait dire, à l'intérieur des mondes, derer ila ve'alul, en passant par toute une série de causes et d'effets, des tzimtzumim rabim, et énormément donc de contractions, ad shenitmaed kolkara or ve'achayut, au point que la lumière, l'énergie est complètement diminuée, miout achar miout, diminution après diminution, ad sheyuchal leit tzamtzem ou leit labej et prinat galout, au point que quand la chose arrive chez lui, la chose, le flux, est en état de galout total. Donnons un exemple très simple. J'avais déjà commencé à donner cet exemple-là, entre deux hommes, deux femmes, peu importe, deux personnes qui travaillent et qui vont arriver toutes les deux au même résultat, au même salaire. Les deux vont gagner à la fin de la journée ou à la fin du mois 10 000 shekels. Il y en a un qui va travailler 10 heures par jour ou 12 heures par jour et qui va devoir faire des efforts énormes, 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 énormes pour avoir ces 10 heures, ces 10 000 shekels, au point qu'il n'a plus le temps de prier, plus le temps d'étudier, plus le temps pour sa femme, plus le temps pour ses enfants, plus le temps pour lui-même, il n'a plus de temps du tout. Et un autre qui va arriver à 10 000 shekels aussi, mais il a le temps de faire ses trois tefillotes, il a le temps de consacrer un temps à l'étude, il a le temps de se souvenir qu'il a une femme et des enfants, et il a le temps de s'occuper aussi un petit peu de lui, faire du sport ou se reposer, peu importe. D'accord ? Les deux arrivent au même résultat. Mais un n'investit que dans son travail, et l'autre investit aussi dans des choses différentes. L'un reçoit de la face de Dieu, et l'autre reçoit de l'extériorité de Dieu. Ça veut dire que celui qui ne reçoit que s'il a fait tous les efforts possibles et inimaginables pour recevoir, finalement son résultat est la conséquence de tout un processus de cause à effet, parce que j'ai été là, et parce que j'ai fait ci, et parce que j'ai fait ça, etc. Donc j'ai mis toutes les chances de mon côté, j'ai rien oublié, il n'y a rien que je n'ai pas fait, je m'en suis entièrement remis à moi-même, et j'ai donc réussi. Donc finalement, j'oublie complètement le makor, puisque je ne peux pas me dire que Dieu y est pour quelque chose, puisque j'ai mis le paquet pour réussir. Par contre, l'autre, qui a le courage, parce que des fois il faut avoir le courage, de dire non, atkan, maintenant j'ai aussi un temps pour l'étude, j'ai aussi un temps pour la prière, j'ai aussi un temps pour les mitzvot, et mon travail peut attendre, mon patron peut attendre, mon contrat peut attendre, j'ai autre chose aussi à faire dans ma vie. Et malgré tout, il réussit. C'est donc la preuve que quoi ? Que finalement il a un associé dans sa réussite, puisqu'il sait lui-même qu'il a pris des risques, qu'il s'est mis en danger, qu'il n'a pas fait tout ce qu'il devait faire, et que malgré tout il a réussi. Donc cette prise de risque, c'est ce qui permet, on pourrait dire, l'association avec Hachem, c'est ce qui permet de sentir qu'il n'est pas seul, et automatiquement lorsqu'il arrive au résultat, il voit la source, il est conscient de la source. Et ça, encore une fois, ça dépend du branchement. Si tu ne te sens pas branché, tu penses que tu es tout seul, ça ne dépend que de toi, automatiquement, tu vas du matin au soir, du soir au matin, tu ne vas faire que ça. Et quand tu vas réussir, tu vas dire, c'est grâce à moi. Mais quand tu te sens branché, et tu sais que tu n'es pas seul, et que chaque pas, tu le fais en association avec une force qui te dépasse, automatiquement, quand tu vas avoir le résultat, tu vas être reconnaissant, tu vas savoir, ça va se manifester par, entre autres, par de la tzedaka ou des choses comme ça. Car tout de suite, tu sais, attention, tu as un associé, donne-lui sa part. La part de Dieu, c'est la tzedaka. Donc, tu montres que tu as un associé par le fait que tu vas donner la tzedaka. Tu montres que tu as un associé par le fait que tu lui consacres du temps, l'étude et la prière. Et toutes ces choses qui font que tu l'associes à toi. On continue. Jusque-là, on était arrivé finalement au cours de la semaine dernière. Et donc, Ulitlabej et Prinat Galut, Tor, Oto, Davar, Anifrad, Leachyoto, Ule, Kayemo, Mein le Yesh, Shelo, Yarzor, Liot, Ein VFS. Alors donc, il explique que puisque ce flux arrive aussi chez celui qui n'est pas connecté à Dieu, mais malgré tout ce flux arrive et il arrive en état d'exil, ça veut dire que coupé de sa source, Beprinat Galut Tor Oto Davar, Anifrad, arrive chez cet être qui est coupé, Le Achyoto, pour lui donner vie, Ul Kaimo, et pour lui permettre d'exister, mais Aïn Le Yesh, à partir de rien, à partir du néant, puisqu'on parle d'une personne qui est déconnectée, donc une personne qui, d'une certaine manière, ne mériterait pas de réussir. Et malgré tout, elle réussit, en tout cas selon ses critères à elle. Sa réussite, on va expliquer tout de suite, elle est Me'ein Leyesh. Elle vient à partir de rien. Chez Lo Yarzor Liot Ein VFS. Et Dieu l'empêche, cette créature coupée, de revenir au néant Kevatrila, comme avant la création, Mikodem Shenivra. Il dit ici une chose absolument incroyable. Mm-hmm. On est à des années-lumière de l'imaginer, à plus forte raison de la ressentir, mais c'est pourtant comme ça. Quelqu'un qui, par exemple, ne mange pas kasher, ne fait pas shabbat, ne donne pas la tzedaka, ne prie pas, n'étudie pas, ou même un goy qui ne respecte pas les sept lois de Noah, normalement, il ne devrait pas exister. Pourquoi ? Parce que la seule énergie qui me permet d'exister, c'est celle qui me vient d'Hachem. C'est la seule qui me permet d'exister. Si Hachem se déconnecte de moi, ou se déconnecte du monde, la chose retourne au néant. Maintenant, on a expliqué déjà depuis plusieurs cours, on le redit aujourd'hui, il faut respecter les connexions. Si je suis un goy, j'ai sept connexions qui s'appellent les sept lois de Noach. Si je suis un juif, j'ai 613 connexions qui s'appellent les 613 mitzvot. Pourquoi le juif en a plus que le goy? Parce que la lampe qui doit briller dans le monde grâce à Israël est beaucoup plus puissante que la lampe qui doit briller grâce aux nations. C'est des missions différentes. Donc comme la lampe est beaucoup plus forte, les connexions sont beaucoup plus nombreuses parce que l'énergie qui doit y arriver est beaucoup plus forte aussi. Maintenant, on est tous conscients que si quelqu'un se refuse à mettre la prise là où il faut, la lampe va rester éteinte. Donc, si quelqu'un ne fait pas ce que Hachem lui demande, comment se fait-il qu'il existe ? À plus forte raison, comment peut-il recevoir ? Parce qu'on pourrait aussi exister en état de pauvreté, en état de maladie, en état de misère. Or, on voit que ce n'est pas comme ça. On voit que quelqu'un peut être complètement déconnecté d'Hachem, au point de dire « je n'y crois pas, je m'en fous », etc., et manger un jambon beurre à Kippour, et malgré tout, il peut être très prospère sur le plan matériel, sur le plan de sa santé, etc. Donc forcément, il est connecté. Alors c'est ce qu'il explique. Effectivement, le flux lui arrive, mais le flux lui arrive, yesh me'ayin. Ça veut dire quoi yesh me'ayin? Quelque chose à partir de rien. Ça veut dire que Dieu ne va pas le ramener au néant, parce que si Hachem ramenait au néant toute personne qui se révolte contre lui, il n'y aurait plus personne sur terre. Mais qu'est-ce que Hachem va lui faire? Hachem va lui donner son yesh toujours à partir du haïn. Il va toujours ressentir en lui un vide, un néant total. J'ai donné tout à l'heure l'exemple du nachash, du serpent, qui tout ce qu'il mange a le même goût. Ici, il va beaucoup plus loin. Ce sentiment de vide, ce sentiment de malaise qu'on a, et le signe, on pourrait dire, mouvak, comme on dit en français, mouvak, est le signe incontournable d'une existence qui est déconnectée. Vous me direz, mais alors c'est très très grave, mais moi je ressens toujours un vide, monsieur le rabbin. Et pourtant, je me couvre la tête, je m'habille comme il faut, je mange kasher, etc. Pourquoi je ressens ce vide-là? La réponse est aussi simple que la question. Parce que peut-être que tu continues, toi, à te brancher à une prise qui ne te correspond pas du tout. Et donc on te demande de t'élever. Et automatiquement, comme tu ne t'élèves pas, le niveau que tu as par rapport à ce qu'on attend de toi est complètement insignifiant. Il est néant par rapport au potentiel qu'il y a en toi. Et c'est pour ça que tu ressens ce vide, tu ressens ce yesh, mais haïn. J'ai quelque chose, mais il y a un manque qui me colle à la peau et qui m'empêche de me sentir véritablement plein. En vérité, je vous rassure, pratiquement tout au long de sa vie, un homme est confronté à ce principe de yesh me'ayin. Il n'y a que les grandes tzadikim qu'on voit constamment, on pourrait dire plein de vie, plein de joie, plein d'optimisme, et qui arrivent non seulement à être remplis de lumière, mais à rayonner autour d'eux, parce que eux sont complètement sortis de ce système de yesh me'ayin. Comment qu'ils sortent du yesh me'ayin? Parce que constamment, ils se branchent là où ils doivent se brancher. Ça veut dire que jamais ils ne commencent une journée comme ils l'ont commencé hier. Constamment, ils cherchent de nouveaux projets, de nouveaux efforts, de nouvelles choses à faire. Mais nous, on sait qu'on n'est pas comme ça. On sait très bien que la plupart de nos journées se ressemblent. On sait très bien que la plupart de nos idéaux sont les mêmes depuis un mois, deux mois, trois mois. Rares sont ceux qui parmi nous se lèvent le matin en se disant « Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de bien aujourd'hui que je n'ai pas fait hier ?» Vers quoi de nouveau je pourrais partir? Qu'est-ce que je pourrais construire que je n'ai pas encore construit? Quel bien je pourrais faire? On ne vit pas comme ça. Et donc, mais par contre, on continue, oui, à vivre. Alors, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, mais c'est-à-dire, je vais continuer à te nourrir. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu reviennes au néant. Mais par contre, je vais t'envoyer un signal. Vous savez, comme par exemple, si quelqu'un il mange trop de piquant, alors il va avoir des petits problèmes à l'estomac. Si quelqu'un il s'essouffle trop, il va avoir des problèmes au cœur. Bekitsour, on sait que le corps est fait de telle manière qu'il envoie des signaux avant que ce soit trop tard. Parce que si ça venait du jour au lendemain, ce serait la catastrophe. D'accord. Donc le corps envoie des signaux. Si tu es attentif, tu vas faire une prise de sang, tu t'aperçois que tu as ou trop de sucre, ou trop de cholestérol, ou trop de, etc. Et tu fais un régime, tu rétablis. Donc il faut être très attentif aux signes. L'âme aussi envoie des signes. Globalement, le signe de l'âme, c'est le sentiment de vide. Je suis à plat, ça ne marche pas. Et ce sentiment de vide, tout de suite, t'indique quoi ? Tu n'es plus en face à face avec Dieu. Tu n'es plus en face à face, tu commences à rentrer dans un principe, dans un processus de malédiction. Malédiction, c'est pas forcément. Malédiction, c'est, tu n'es plus barour, tu n'as plus de bénédiction. Et donc, automatiquement, qu'est-ce que je dois comprendre ? Hop, il faut me reconnecter. Comment je me reconnecte ? Ben, en m'améliorant. Si je m'améliore, automatiquement, je vais ressentir en moi un nouveau flux qui va rentrer. Une nouvelle joie, un nouvel optimisme, de nouvelles forces, de nouveaux projets. Et ça peut en partir pendant un mois ou deux. Il se peut qu'au bout d'un mois ou deux, hop, nouveau un vide. Canirait que tu as épuisé toutes les forces que tu as reçues le mois dernier, maintenant on te demande d'avancer. Et c'est comme ça que constamment on se stabilise. Donc ces sentiments de vide sont là pour nous rappeler qu'on exige de nous une nouvelle connexion. Donc c'est ce qu'il explique ici, je le reprends maintenant dans les mots. Donc ce flux arrive, Beprinat Galout, 5 lignes avant la fin. Quand le flux arrive en état d'exil, ça veut dire que je ne le mérite pas vraiment ce flux-là. Tor auto davaranifrad. Et pourquoi il est en état d'exil? Parce que je suis un être qui est coupé, qui est séparé de Dieu dans la mesure où je ne me connecte pas tel que je devrais le faire. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Leachyoto, ce flux-là me permet de vivre. Ou les kaimo, il me permet de me maintenir. Mais seulement comment? Mais Aïn Leyesh. Je serai constamment avec le sentiment que je suis dans du néant. Aïn Leyesh. Je vacille constamment entre Yesh et Aïn. D'accord ? Allez, viens, qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Qu'est-ce qu'on s'embête à mourir à la maison ? Allez, viens, on va voir un bon film. On va voir un bon film chez soi ou au cinéma. Et puis on ressort avec un sentiment de. Oh, ce qu'ils sont nuls, les journaux, avec leur publicité sur ce film, c'était vrai. Un véritable. Navet. D'accord. Et pourtant, on avait cru que. Un sentiment de vide. Tu as pensé faire plaisir à ta femme, à ton mari, puis tu ressens avec un sentiment de vide. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'aller au cinéma quand tu t'embêtes à la maison, il y a tellement d'autres choses à faire. Peut-être aller rendre visite à un malade ou je ne sais pas quoi faire. Non. Tu vas au cinéma, tu peux être sûr. Tu vas renforcer le vide en toi. Alors bon, peut-être nous, on n'est pas vraiment à ce niveau-là, mais c'est pareil. À notre niveau, quand on aurait tellement de bonnes choses à faire et puis qu'on s'embête, on ne sait pas quoi faire et on tue le temps, automatiquement, on entretient le vide en nous. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on reçoit une énergie qui n'est pas méritée, on reçoit un souffle divin qui est en état d'exil chez nous parce qu'il n'est pas utilisé comme il devrait être utilisé. Et d'une certaine manière, la punition va être, ça va se transformer en sentiment de vide. On continue. Chez Loyarzor Liot Aïn VFS Kebatrila Mikodem chez Nivra. Et ce sentiment de vide te rappelle que si Dieu le voulait, il pourrait complètement te ramener dans le vide, complètement te ramener dans un état de Aïn VFS comme avant le début de la création. Velachen. Et maintenant on comprend. Nikra olamaze umlo'o. Pourquoi notre monde matériel, notre monde physique est appelé olamaklipot, est appelé le monde des écorces, vesitra achara, et il est appelé aussi l'autre côté, l'écorce et l'autre côté, velachen, et c'est parce que kolmaase olamaze, tout ce qui se passe dans ce monde, toutes les actions de ce monde, Kashim Veraim sont dures et sont mauvaises, Verreshaim Govrimbo, parce que ce sont les Reshaim, c'est le mal qui prend le pouvoir, qui prend le dessus. On continue un petit peu, je vais expliquer. Kemo chez Katuv Be'etz Achaim, comme ce qui est expliqué dans le livre Etz Achaim, qui est l'œuvre fondamentale du Ari Akadosh, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit là-bas donc effectivement que ce monde s'appelle Sitra Achara avec l'hypote. Et là, chez Aklipot en Nechlakot les Shte Madrigot, simplement que le monde des Klipot, le monde des écorces lui-même a deux niveaux, Zou le Matamizou, l'une en dessous de l'autre, à Madriga Tartona. Non, ça on va voir après. Donc qu'est-ce qu'il explique ici? Quelque chose qui apparemment semble contredire tout ce que nous-mêmes disons et tout ce qu'on apprend dans ce genre de livre, même comme le Tanya. On sait que la Chassidut enseigne que ce monde matériel a été créé parce que Nitava Kadosh Bochuliot Lodira Batartonim. Dieu voulait résider dans ce monde. On sait très bien que la différence fondamentale entre la Yahadut, le judaïsme et toutes les autres religions, c'est que le judaïsme voit ce monde non seulement avec un œil positif, mais comme étant finalement le but, le pourquoi, l'aboutissement de tout ce qui a été créé, et son royaume est de ce monde et nulle part ailleurs. C'est pour ça que la Torah insiste sur les actes faits justement avec des parties de ce monde, ce qu'on appelle les mitzvot, les tefillin, qu'on fait avec des peaux de bêtes, et quantité d'autres mitzvot qui justement font intervenir les éléments les plus bas, les plus matériels de ce monde. Alors comment d'un autre côté, les maîtres peuvent dire que ce monde est rempli de klipot, il est rempli d'impureté, il est rempli d'écorce, et que ce monde est entre les mains du mal? Ça semble être une vision, surtout dans un Tanya, qui est un livre fondamental de Chassidut, ça semble être une vision qui est en vérité très proche de ce que les autres religions disent. C'est ce que disent les Goïm. Mon royaume n'est pas de ce monde est entre les mains du Satan, ce monde est entre les mains du mal. Et apparemment le Tanya, les Avdil, est en train de dire exactement la même chose. Mais, je vous avais déjà fait remarquer la semaine dernière, je vois maintenant qu'on a commencé, vous êtes toutes trompées, on a commencé le cours beaucoup plus haut, ne me faites pas le coup la prochaine fois de me faire refaire tout le cours la semaine dernière. Peut-être, parce que tout ce qu'on est en train de dire maintenant, on l'a déjà dit la semaine dernière. Bon, c'est pas grave. En tous les cas, la réponse, elle est dans le texte lui-même. Que le mal dans ce monde est appelé clipote. Ça veut dire quoi clipote? L'écorce. On a expliqué que dès qu'on dit le mot écorce, ça fait allusion à ce qu'il y a un fruit à l'intérieur. C'est vrai que ce monde est rempli d'impuretés, mais les impuretés s'appellent l'écorce. Et c'est dans cette foulée qu'il ramène aussi la notion de raïm et de réchaïm. Même les réchaïm sont aussi des écorces. C'est-à-dire que même un rachat, même quelqu'un de méchant, lui aussi à l'intérieur a une âme divine, a une lumière. Seulement cette lumière est recouverte par son écorce. Et c'est là où se joue toute la différence entre les autres visions et la nôtre. Le point commun d'abord est que nous aussi disons et voyons dans ce monde énormément de mauvaises choses. C'est clair que le monde tel qu'il est n'est pas le monde que Dieu aurait souhaité. La Torah ne nous cache pas que tout a commencé avec une faute, et il y a eu quantité de fautes, jusqu'à des versets où Dieu lui-même dit qu'il regrette presque d'avoir créé le monde. Seulement, ça c'est le point commun avec, on pourrait dire, toute vision morale et spirituelle de l'existence. Là où il y a une différence fondamentale, c'est que nous appelons ce mal des écorces. C'est-à-dire, prends la peine d'éplucher, fais l'effort de te séparer de ce qui voile la beauté de ce monde, et tu vas t'apercevoir qu'à l'intérieur, derrière ce mal, se trouve quelque chose d'extraordinairement bon, d'extraordinairement lumineux et d'extraordinairement sain. Les autres disent que non, que puisqu'on voit le mal, tout est mal et on va chercher Dieu ailleurs. Nous disons non, la vérité se trouve dans ce monde, simplement elle est recouverte d'écorce. Donc finalement, jusque-là, c'était tout le cours de la semaine dernière, et maintenant, on commence le cours d'aujourd'hui. Et là, chez Aklipot en Nichlakot, les Shte Madrigot. Alors maintenant, il explique. Les Klipot se divisent en deux catégories. Zou, les Matamizou, l'une sous l'autre. Donc, les impuretés, mais qui sont en vérité des écorces qui cachent un fruit. Il y a deux types d'écorces, l'une au-dessous de l'autre. À Madriga, à Tartona, le niveau le plus bas, il s'appelle Shalosh Klipot Atmeot, les trois écorces impures, Veraot les Gamre, qui sont complètement impures. Ça veut dire des écorces qui n'ont en elles aucun bien. Elles sont des écorces, donc elles sont sur un fruit. Elles aussi ont un fruit. Mais l'écorce, là on parle de l'écorce, après j'expliquerai pourquoi ça fait allusion, l'écorce elle-même est fondamentalement mauvaise. Donnons un exemple simple. L'écorce d'une noix, on ne peut rien en faire. L'écorce d'une pomme, on peut la manger. Même l'écorce d'une orange, on peut en faire aussi de la confiture. C'est une écorce. La plupart des gens qui mangent l'orange jettent l'écorce. Mais on ne peut pas dire que l'écorce est complètement mauvaise. On peut la récupérer, on peut faire quelque chose. Donc on voit qu'il y a effectivement des écorces qui ne sont pas du tout mangeables, comme l'écorce d'une noix. Et des écorces qui sont, oui, récupérables, bien qu'elles sont des écorces. Alors pour l'instant, il parle des écorces qui sont complètement mauvaises, pour nous bien sûr. Et elles sont au nombre de shalosh, comme on va expliquer. Shalosh klipot atmeot, il y a trois types d'écorces impures, veraot et mauvaises, les gamrées complètement. Ve'en ba'em tov klal, dans ces écorces, il n'y a aucun bien. Ve'nikru Bemerkevet Yecheskel, et ce sont celles que le prophète Yecheskel nomme Ruar Seara, un vent de tempête, Ve Anan Gadol, une nuée énorme, Ve Raash aussi, et un bruit. Il y a donc dans la prophétie de Yecheskel, il y a un moment où il nous dit qu'il a vu une tempête, une grande nuée, et un grand feu. Alors bien sûr, ce sont des paraboles prophétiques qui font allusion au fait, c'est ce qu'explique le Tanya, qu'il a vu ce qu'était, il a compris quelle était la nature, on pourrait dire spirituelle, profonde, de ce qu'on appelle les trois klipot tmeot, on va expliquer dans quelques instants. Umehem nishpaot venim shachot nefashot kol umot ovde gelulim. Et de ces trois klipot-là, sont inspirés et influencés les néfashot, les âmes, de tous ceux qui sont idolâtres. Mais mot à mot, Oved Gilulim, excusez-moi la traduction, Ovde Gilulim, de ceux qui servent les excréments. Ça veut dire que de ceux qui ont une vie dégoûtante, mot à mot. Ça veut dire ceux qui ont un comportement dégoûtant. Galal, c'est un excrément en hébreu. Et c'est une expression qui n'est pas de lui, qui est de la Torah elle-même. Il y a différents endroits dans la Torah où la Torah appelle les idolâtres ou les idoles Gilulim ou Ovde Gilulim. Gilulim, les idoles, c'est-à-dire traduit en français les excréments. Ovde Gilulim, les idolâtres, ceux qui servent les excréments. On verra bien sûr pourquoi, tout de suite, on appelle ces notions-là des excréments. En tout cas, à notre niveau, ça fait allusion donc à ceux qui ont un comportement dégoûtant, tout à fait injustifié. Et donc, à ce moment-là, lorsqu'ils sont dans ce genre de comportement, alors leur nefesh est inspiré, est influencé par ces klipot tmeot. Vekiyum gufam, mais aussi, et là regardez comme c'est important, de même le corps et le nefesh, kol ba'alechaim, de tous les animaux atmeim que la Torah nous interdit de manger, qui sont donc impurs pour nous, ve'asurim be'achila, que nous n'avons donc pas le droit de manger. De même, vekiyum gufam, vekiyum chayut, de même le maintien du corps et de l'énergie, kol ma'achalot asurot, de toutes les nourritures interdites, parce que pour l'instant on n'a parlé que des animaux, mais il y a d'autres nourritures interdites, mais atsomehar, des plantes, il y a des plantes interdites par exemple, les trois premières années, après que l'on ait planté un arbre, les fruits sont orla, on ne peut pas les manger. Et donc, à ce moment-là, le fruit existe parce qu'il reçoit un flux de ces klipot tmeot. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas manger. Une récolte sur laquelle on n'a pas prélevé, trouma, maaser, ou une récolte qui est vendue pendant l'année de la Shemitah. À ce moment-là aussi, le flux qui permet à la chose d'exister provient de ces klipot. Donc, c'est ce qu'il explique. Kemo orla, l'exemple de la orla, ou kal ea kerem, ou bien des greffes à l'intérieur d'une vigne, ou kemo shekatuv be'et sachayim, etc. Vechen kiyum vechayu, de même, l'existence et l'énergie, kol ma'ase, de toute action, dibur ou marshava, de toute action, de toute parole et de toute pensée, shel kol shisa, de toutes les 365 lota assez interdits, ve'anfe'em, et tout ce qui dérive d'eux, kemosha marti, Sham Sof Perek, et comme ce qui est expliqué à un autre endroit. On va reprendre tout ça car c'est l'essentiel du cours d'aujourd'hui. Regardez ce qu'il dit. On voit qu'il y a une évolution, on pourrait dire, du compréhensible vers l'incompréhensible, de ce que l'on peut accepter vers l'inacceptable. Excusez-moi l'expression, un homme dégueulasse. D'accord ? Je fais exprès de dire ça parce que c'est vraiment ce qui a marqué dans le texte. Et si je ne dis pas que ça, vous n'allez pas comprendre. Guiloulim, c'est quelque chose qui est dégueulasse, dégoûtant. D'accord ? C'est des excréments. Un homme qui a un comportement dégueulasse. D'accord ? Un pédophile, tout ce que vous voulez, un violeur, un assassin, un truand, un bandit. Bon, ça se voit presque sur sa tête qu'il est dégueulasse. Ça veut dire un nazi, un bourreau, quelqu'un de dégoûtant, un excrément ambulant. D'accord ? Ça pue, ça sent pas bon, c'est dégoûtant, ça repousse. Ça se voit ce genre de choses. On peut comprendre éventuellement que ce genre de créature, je ne vais pas dire d'homme, que ce genre de créature est branché à des choses monstrueuses. C'est-à-dire ses pensées, ses paroles, ses actions lui proviennent de je ne sais quelle monstruosité, une énergie, si on croit à des choses plus ou moins surnaturelles, qu'il puisse son énergie de quelque chose de dégoûtant. Bon, ça on peut déjà comprendre. Après il va plus loin et dit, mais attention, sache que ce n'est pas seulement ces créatures qui sont des excréments, qui sont branchés à ces clipotes méotes, même les animaux que la Torah nous interdit de manger, eux aussi sont branchés à ces mêmes clipotes méotes. Ça c'est déjà un peu plus compliqué, pourquoi ? Bon, un cochon je veux bien, parce qu'un cochon c'est vrai qu'il a une tête de cochon, mais
un cheval,
c'est gentil, c'est mignon, un petit poney. Pourquoi lui, il est branché aux mêmes sources comme un pédophile ? Ça, c'est bizarre, ça. Et puis, un petit lapin ? C'est mignon, un petit lapin, quand même. Pourquoi un lapin serait branché à la même clipa qu'un pédophile ? D'accord ? Ça, c'est quand même bizarre. Bon, comme c'est pas cachère, qu'en irait que ? C'est d'air. On va continuer un petit peu. Regardez comme il est malin. Il dit, mais attends, pas seulement un cochon ou un lapin, parce que tu vas me dire, oui, mais comme il rumine pas, alors il est monstrueux. Bon, je vais me forcer à croire que. Mais il dit, le Tanya, et dis-moi, tu as deux arbres devant toi, deux pommiers devant toi, un qui est à la cinquième année, et l'autre qui est à la troisième ou deuxième année. C'est les mêmes fruits. Bon, un est un peu plus gros que l'autre. Les mêmes fruits. L'un est branché au clipot tmeot et l'un est cacher. Là, tu ne vas pas me dire il a une tête de cochon. Pourquoi ? Ou il a une tête de lapin. C'est le même fruit. Une récolte, on a prélevé la trouma et l'autre récolte, on n'a pas prélevé la trouma. Mieux que ça. Deux chalotes sur la table, deux pains de Shabbat. L'un, on a enlever la chala, l'autre n'a pas enlevé la chala. C'est de ça qu'il parle, c'est explicite, c'est dans le texte. Un est branché à la même source qu'un pédophile et l'autre pas. C'est ce qu'il dit, c'est pas moi. J'interprète pas, je ne fais que traduire en français pour comprendre ce qu'il dit. Oh, bien. Hein ? Comment ? C'est que ça, c'est vraiment bizarre ça. Mais il va plus loin. Il dit, attends, mais même n'importe lequel d'entre nous qui maintenant met les tefilines, qui est en train d'enseigner la Torah, qui est en train de l'écouter, si dans une heure il dit du Lashon Hara, cette même personne à ce moment-là est branchée à la même prise que l'excrément. C'est ce qu'il dit. Voyez, on va maintenant le relire et vous allez voir que c'est ce qu'il est en train de dire. Regardez. Regardez ce qu'il dit. Il existe, je reprends tout le texte, il existe donc shalosh klipot tmeot veraot legamre, trois klipotes impures et véritablement mauvaises, ve'en ba'em tof klal, qui n'ont aucun bien. Si on s'est arrêté là, vous aurez dit, ça c'est le genre de prise auquel était branché Hitler ou auquel est branché véritablement une monstruosité. Alors il me dit, oui, tu as raison, c'est vrai. Alors il continue, alors d'abord, il va, regardez le coup qu'il nous fait, il nous dit, oui, absolument. Vénicro, je continue, t'attaque. Alors voilà. Oumehem nishpaot, qui c'est qui est branché à ce genre de monstruosité ? Nafshod kol umot ovde gilulim, tous ceux qui parmi les nations, d'accord, sont appelés des ovde gilulim, les serviteurs des excréments. Ça veut dire ceux qui se délectent dans les saletés. D'accord ? Voilà. Des saletés au niveau de la violence, des saletés au niveau sexuel, des saletés au niveau de toutes les formes de saleté qui existent. Bon, s'il s'arrête là, ça ne me dérange pas. Mais regardez, non, il continue. Mais pas seulement ça, dit-il. Vekiyum gufam venafshot kol ba'ale chayim atme'im. Sont branchés au même clipote le corps et l'âme, enfin l'âme, c'est pas l'âme, encore le corps et l'énergie vitale des animaux interdits, be'achila, comme le porc, le lapin, etc. Je vous ai montré que c'est un peu plus compliqué. De même, encore plus compliqué, vekiyum gufa, vekiyum vechayut kol ma'achlot asurot me'at somear. Maintenant, on est dans le compliqué. Pourquoi? Parce qu'on parle maintenant de récolte, de fruits, qui, en tant que tel, pourrait être permis si ce n'était qu'on n'a pas prélevé ou que c'est la troisième année. Kemo Orla ou Kléa Kerem. Par exemple, vous avez à côté ou plutôt dans une vigne, vous avez planté une rangée d'autres choses que de la vigne. Toute la vigne est interdite à la consommation parce que ça s'appelle Kelaim, ça s'appelle mélange, même s'il n'y a pas eu de greffe. Et si vous buvez un vin de cette vigne, vous ne le savez même pas, vous buvez un vin de ces raisins qui ont poussé dans une vigne dans laquelle il y a une rangée, admettons, de blé, d'accord ? À ce moment-là, vous êtes branché à la même prise que le serviteur d'excréments.
Mais ça, on ne sait pas.
Alors, c'est Shogeg, peu importe, mais ça reste fondamentalement la même chose. Tu ne le sais pas. Alors, c'est comme quelqu'un mange du poison sans le savoir. Ça ne va pas l'arranger beaucoup au niveau de la maladie objective. C'est une réalité objective. Vekken, et il termine en disant, Kiyum vechayut kolma asevedi buru marshava. De même, toute action, parole et pensée qui appartiennent aux catégories des 365 interdits et leurs dérivés. Ce qui veut dire que, encore une fois, je suis au Kotel en train de prier pour la délivrance du peuple juif, d'accord ? Et quand j'arrive à la voiture parce que j'ai dépassé le temps du parking, je vois un PV de 150 shekels et que je dis qu'il soit mauvais cette... Hein? D'accord ? À ce moment-là, le prieur au Kotel s'est transformé en branché dans les clipotes. Si c'était pas le Tania qui le disait, personne n'aurait eu le courage de le dire, mais c'est quelque chose qui est absolument, absolument incroyable. Ça veut dire que finalement, on ne se rend pas compte que selon la situation dans laquelle on est, on peut passer sans le savoir d'un type de branchement à un autre, et tout d'un coup, la même personne peut 10, 20, 30, 50, 100 fois dans la journée passer d'une prise à une autre, se brancher à la bonne prise, être rebranché à une mauvaise prise, etc. C'est absolument impossible de ne pas être branché à quelque chose. Si tu es en état de faute, tu es branché dans la prise des clipotes. Tu es en état de bien, de mitzvot, tu es branché à la prise de la sainteté. Ou tu es en état de panim, ou en état de oref. Ou tu es en état de visage, ou en état de nuque. Mais tu ne peux pas être neutre. Il n'y a pas de neutre, ça n'existe pas. Alors maintenant, vous me posez la question. Le texte exagère. Pourquoi ? Parce que sauf col sauf, bon, c'est vrai que je me mets des fois en colère, c'est vrai que je fais des fois, même, je n'ai pas honte de le dire, du vrai lachonara, c'est vrai que des fois je maudis, mais d'un autre côté, grâce à Dieu, je fais quand même des tas et des tas et des tas de mitzvot. Pourquoi on ne serait pas jugé d'après un ensemble, d'après une majorité ? Et pourquoi on a ce système de branchement à des clipotes ? Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi ? Ça se comprend, mais moi je ne le ressens pas. Lui, il le dit, mais moi je ne le ressens pas. Je ne ressens pas cette chose-là. Je ressens ou je ne le ressens pas? Et bon, si j'ai une grosse colère, d'accord, mais si c'est un petit lachonara, et je ne ressens pas ça.
Donc,
à partir du moment où on peut se rebrancher à la bonne prise, on fait tchouva immédiatement.
Ah, c'est ça, là, on verrait le fond du problème. Est-ce que le fait que j'ai dit maintenant du lachonara et après je vais faire des teilim, donc deux fautes avec la bouche, donc les mots du lachonara dégage de l'énergie de la prise de la klipa gmura. Les mots de Tehilim dégagent de l'énergie qui vient de la gdusha, du panim d'Hachem. Mais c'est d'air. Alors, mais est-ce que ça s'appelle vraiment que j'ai fait teshuva?
Bah, non,
parce que moi, quand je me mets en colère,
comment?
Quand je me mets en colère ou que je fais du lachonara, j'arrive pas à faire des teilim après. J'ai l'impression que je le roule.
Vous avez de la chance. Alors, c'est...
J'attends un peu à faire des teilim. Je le roule, quoi.
En vérité, c'est ça le sod de la véritable teshuva. C'est ce que vous dites, mais je vais expliquer. Regardez. On a vu, bien sûr, on a vu la semaine dernière, par Shad Vayetse, bien sûr, on a vu, que quand Rachel est morte, et que Yaakov s'est installé dans la tente de Bila, est venu Réhouven, et qu'est-ce que la Torah nous dit? Que Réhouven, qu'est-ce qu'il a fait Réhouven? Non. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Qu'il a eu un rapport avec la femme de son père. Voilà. C'est ce que la Torah dit. Nous savons tous, parce que Baruch Hashem, nous connaissons la Torah chez Béalpé, que Chazvé Shalom, il n'a pas eu un rapport avec la femme de son père. Il a tout simplement donné un coup de pied dans son lit. D'accord? Il est rentré et il a donné un coup de pied dans le lit de la concurrente de sa mère, en disant « J'accepte que mon père puisse être dans la tente de Rachel, qui est du même niveau que Léa, mais que mon père aille dans la tente de la servante, ça certainement pas. Ma mère mérite plus que ça, et il a détruit le lit de Bila. » Très bien. Il a donc, disons-le, donné un coup de pied dans le lit de Bila. Alors pourquoi la Torah dit qu'il a couché avec? Pourquoi? La réponse, vous la connaissez toutes, je l'ai déjà dit 10 fois dans ce cours-là. Parce que au niveau d'un homme comme Réhouven, d'accord, rentrer sans permission dans la chambre à coucher d'une femme qui n'est pas ton épouse, c'est un manque de tzniout qui, à ton niveau, est considéré comme étant couché avec. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on attend d'un homme comme Réhouven une telle sensibilité qu'il doit effectivement se rendre compte que pour un homme comme lui, ce manque de tzniout, pour lui, c'est comme pour un homme standard, aller avec la femme de son père. C'est une question de sensibilité. Ça veut dire qu'en vérité, quand la Torah nous dit qu'il a eu un rapport avec, la Torah nous dit qu'effectivement, il s'est branché à la même prise que ceux qui ont physiquement, réellement un rapport avec. Simplement qu'au niveau de Réhouven, il doit pouvoir ressentir, on pourrait dire, l'abomination d'un acte physique, il doit le ressentir lui aussi à ce niveau-là. Mais il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Donnons un autre exemple. Quand Yahushua va conquérir la terre d'Israël, vous savez que la première ville conquise, c'était Jéricho. Et à ce moment-là, Yahushua dit clairement à tous ses soldats, tout le butin sera donné au tabernacle, c'est pour Hachem, c'est la première ville, ça sera un S inimaginable, sans le moindre coup de feu, on va seulement tourner 7 fois autour des murailles, elles vont s'écrouler. La moindre des choses, c'est que tout ce qu'on va prendre, ça sera pour Hachem. Effectivement, c'est ce qui s'est passé, tout le monde a tout apporté à Hachem, sauf un, Arhan, qui a piqué 5 choses. Qu'est-ce qui se passe? La prochaine bataille dans la ville de... Donc Hachem ne dit rien, personne ne le sait. Il y a une bataille dans la ville de Haï, d'accord? Et ça a fait mamash Haï, d'accord? 36 juifs, parmi les plus grands d'Israël, meurent, sont tués. À ce moment-là, Yahushua comprend très bien que non, il n'y a pas possible. On passe d'un miracle inimaginable à une guerre standard où nous aussi on prend des coups, en plus les meilleurs. Qu'est-ce qui se passe? Il supplie Hachem, lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Hachem lui dit... D'accord? Ton peuple a fauté, s'est révolté contre moi, ce sont tous des voleurs. Comme ça, c'est marqué clairement dans le verset. Tous des voleurs. Quand l'Israël. Yeshua, qui sait très bien que Dieu exagère tout le temps, lui dit, attends, arrête, je t'en supplie, allez, ne la joue pas à moi, d'accord. Et il lui dit, non, finalement, il y en a un qui a volé, un qui a volé. Finalement, on découvre que c'est Achan. Les commentaires posent la question, pourquoi Hachem dit tout, et pourquoi 36 meurent si un a volé? Alors on répond, pourquoi? Parce que, surtout à l'époque de Yeshua, où il y a une telle sainteté dans le peuple, il y a une telle unité dans le peuple, il y a de tels dévoilements de la présence divine dans le peuple, que si un faute, c'est la preuve que tout le monde a fauté. Pourquoi? Parce que si véritablement tout le monde avait été à un très 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 haut niveau, alors un n'aurait pas fauté. Parce que quand le Ham Israël est véritablement, on pourrait dire, uni, à ce moment-là, chacun est véritablement responsable l'un de l'autre, et on le ressent, on le sent comme dans une même famille, et les fautes de l'un rejaillissent sur tout le monde. Et donc Hachem va donner à tout Israël le statut de voleur, alors qu'il n'y en a qu'un qui a volé. Je vous pose la question, si Hachem nous juge selon cet étalon aujourd'hui, rien que pour le Rosh Memshala, on est déjà tous morts. D'accord? Parce que des voleurs, grâce à Dieu, il y en a. C'est évident que Hachem ne peut pas nous juger à ce niveau-là aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ce niveau-là. Et donc automatiquement, pour nous aujourd'hui, il ne s'appelle voler que quand on vole véritablement. Et si je suis le voisin d'un voleur, je ne suis pas un voleur. Mais à l'époque de Yehoshua, si tu es le voisin du voisin du voisin du voisin du voisin du voisin du voleur, et tu ne sais même pas qui est le voleur, et même quand on va te dire c'est Aram, tu ne l'as jamais rencontré, parce que c'est quand même plusieurs millions de personnes, pas tout le monde connaît tout le monde, malgré tout la proximité des âmes est telle que le vol du voisin te concerne que si tu avais volé. Et la Torah dit à ce niveau-là, ça s'appelle un vol. Ça veut dire que ce n'est qu'une question de sensibilité. Et plus un homme s'affine, et plus il ressent qu'effectivement le moindre mal est effectivement un vrai mal. Et maintenant on a répondu à tout ce que dit le Tanya, et on va comprendre à quel point ça s'inscrit maintenant dans un cours de Chassidut. Puisque toujours la Chassidut, c'est une vision profonde qui nous oblige à voir les choses avec un regard justement qui dépasse l'extériorité des yeux, que les yeux perçoivent. Un homme qui est tout en bas de l'échelle morale, quand on lui parle pédophile, nazi, machin, etc., terroriste, c'est dégueulasse. Ce sont des ordures. C'est pas, ils se déguisent en hommes, mais ce ne sont même pas des animaux. N'insultez pas les animaux en disant que ce sont des bêtes. Car c'est une véritable insulte pour les animaux de dire qu'un terroriste est un animal. Pourquoi insulter les animaux? C'est pire qu'un animal. Ça, tout le monde le ressent. Le même homme, tu vas lui dire, mais tu sais, manger du lapin, d'accord, c'est la même chose. Là, c'est clair. Allez, personne ne nous écoute. C'est clair que plus personne ne suit. Non. Là, vraiment, c'est déjà complètement isolé. Pourquoi? Parce que notre sens moral est déjà complètement largué. Si après tu lui dis, tu sais, tu manges une magnifique challah de Shabbat dans laquelle tu n'as pas prélevé la challah, c'est toujours comme le premier. Non, là. Tu sais, ce rave-là, qui fait tellement de bien, une fois il a dit du Lashon Hara, à ce moment-là, il est comme le premier. Non, mais arrêtez, non, là. Pourquoi? Parce que là, notre sens moral est complètement largué. Mais le Tanya nous révèle qu'en vérité, c'est faux. Chaque faute, au moment où elle est faite, nous rattache à la même Klipat Mea que l'homme dégueulasse qu'il l'est toute la journée. Simplement, nous n'avons pas de sensibilité suffisante pour le ressentir. Et c'est là tout le problème de la Teshuvah. C'est quoi faire Teshuvah? Ou dit d'une autre manière, quelle est la différence entre la Teshuvah de l'un et la Teshuvah de l'autre? Ça se joue à ce niveau-là, ma sensibilité. Plus un homme est sensible, et plus les choses qui sont complètement, on pourrait dire, insignifiantes pour les uns, deviennent signifiante pour lui. Et plus il s'affine, et plus il va comprendre que ce que tout le monde considère comme étant banal, non, moi je t'en prie, c'est pas de la Lashon Hara puisque c'est la vérité. Pour lui, ça devient une horreur. Et plus il s'affine, 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 et c'est en vérité en sof. Et comment l'homme va s'affiner, justement? Grâce à l'étude, en particulier de la Chassidoute, grâce à l'étude des secrets de la Torah, l'homme fait rentrer en lui une telle lumière que justement son affinement est sans fin. Et à ce moment-là, il arrive à des niveaux justement de sensibilité extraordinaire qui après, c'est plus pour nous du tout, mais ça arrive après une connexion telle avec le divin qu'il en arrive même après à ce qu'on appelle le Roi Kodesh, la prophétie, etc. C'était quoi les prophètes? Ils arrivent à capter des choses inimaginables parce qu'ils ont un état de sensibilité tel que pour eux, une mouche de faute est considérée comme un éléphant. Oui.
Est-ce que ça fragilise cette sensibilité?
Non, au contraire.
Ça renforce?
Mais ça renforce. Mais justement, puisque c'est la faute qui fragilise. C'est ce qu'on a expliqué au début du cours. Le sentiment de vide, de néant, l'insatisfaction, toutes ces notions-là qui automatiquement entraînent la tristesse, la faiblesse, l'écœurement, qui nous fragilisent et nous affaiblissent, tout ça, c'est justement le fait que l'homme a perdu sa sensibilité à la faute, et donc automatiquement la faute est en lui. Au contraire, celui qui est extrêmement sensible, il est donc extrêmement distant de la faute, et donc automatiquement extrêmement fort, puisqu'il n'est plus dans le système du yesh mais haïn. Et ça, c'est la conclusion du cours. Un homme est faible justement parce qu'il est dans un processus de yesh me'ayin. Il sent un néant en lui. Et d'où vient le néant en lui? Provient du fait qu'il est en état de faute. Donc automatiquement, moins un homme est en état de faute, moins il est en état de néant, et plus il est en état de yesh, de plein, et automatiquement, plus il aura de l'énergie. Pourquoi Moshe Rabbeinu est le plus énergique de tous les hommes? Parce qu'il ne faute pas. Et donc il a un sentiment de plein, de lumière, de se remplir, et automatiquement comme il est rempli, il déverse aussi sur les autres. Quelqu'un qui est vide, qu'est-ce que vous voulez qu'il rayonne autour de lui? Puisqu'il n'a rien à donner, il est vide. Et ça c'est donc lié à la faute. Et donc c'est pour ça, et je termine, que la teshuva est donc infinie. Parce que plus tu vas t'affiner, plus tu vas comprendre que ce qui paraît ridicule pour les uns, pour toi devient tout d'un coup. Et je veux dire, je ne veux pas être lourd avec des dizaines d'exemples, mais c'est pour ça que ces discussions, par exemple, sur les degrés de cacheroute, sont puériles, stupides. Et sont. Il n'y a pas de mots pour les définir. Moi je mange rabanout, non, moi je mange badat. Ah, tu sais, tu devrais manger badat, non, mais rabanout c'est aussi cachère. Discussion stupide entre deux êtres idiots. Ça ne se discute pas. Si tu es au niveau de ressentir que rabanout, mange rabanout. Et si tu es au niveau de sentir badat, mange badat. En vérité, les deux ont raison. Entre vous et moi, celui qui a raison, c'est celui qui mange badat. Seulement là où il a tort, Là où il a tort, c'est quand il essaye d'une manière despotique de convaincre l'autre que l'autre ne mange pas cachère. Il n'a pas ce niveau de sensibilité. Par contre, l'autre a tort lorsqu'il regarde celui qui mange badatz comme étant un extrémiste et un fanatique. En vérité, chacun devrait comprendre qu'il a le niveau de cacheroute qui correspond aujourd'hui à sa sensibilité. Car en vérité, même ton badatz à toi, par rapport à un autre badatz beaucoup plus haut, c'est aussi de la rabanout. Et c'est ensof. Vous savez qu'il y a des gens qui non seulement ne mangent pas badat, mais ne mangent rien qui n'a pas été cuisiné chez eux à la maison. Il y a des gens qui ne mangent pas d'une bête badat s'ils n'étaient pas à l'endroit où on a fait la shrita pour suivre tout le processus depuis la shrita jusqu'à la cachération. Je connais moi personnellement des gens comme ça. Ça veut dire que même si la viande est badat, ils ne la mangeront pas, ils veulent avoir été présents à l'abattoir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de faim. Et donc quelqu'un qui mange badat aujourd'hui peut être perçu par rapport à un autre comme étant un type très très léger. C'est que quand toi tu dis moi je mange badat et tu regardes comme un pauvre misken celui qui mange rabanout. Mais sache que toi aussi tu as un misken par rapport à d'autres. Et c'est ensof, il n'y a pas de faim. Donc chacun doit savoir que son niveau est tout simplement la résultante de sa sensibilité du moment. Par contre, lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est complètement en dehors de la halakha, en dehors des normes, alors là bien sûr tu as la mitzvah, si tu sais le faire, de pouvoir faire une remarque et expliquer que non, ça c'est pas kasher du tout. Il y a des gens qui se disent, oui, mais moi je ne mange que du poisson dehors. Et donc, le poisson c'est cachère, j'ai vérifié, il a des écailles. Non, mais tu ne sais pas que dans les mêmes ustensiles a été cuit aussi peut-être du porc, etc., ou mélangé du lait et de la viande. Donc là, tu as le devoir de lui dire, puisque lui en vérité, il voudrait bien faire, mais il ne sait pas. Mais si quelqu'un est déjà au niveau de la halakha, Simplement, après, c'est une question de sensibilité, comment tu ressens les choses. Alors, automatiquement, effectivement, c'est très difficile de faire de la morale, puisque chacun, selon le niveau où il est. Oui.
Cette sensibilité, on peut l'acquérir.
On doit l'acquérir, pas on peut. On doit l'acquérir et elle augmente au fur et à mesure que la personne progresse dans les mitzvot, dans l'étude et qu'il s'affine. Comprenez ? Et c'est donc comme ça, et c'est parce que je termine vraiment qu'il faut comprendre ce texte-là n'a pas pour but de nous faire peur. Et c'est pour ça que je l'ai présenté d'abord comme je le fais souvent dans ce genre de texte, d'une manière qui est terrifiante. Mais finalement, qu'est-ce que je conclue avec vous ? En vous faisant comprendre que justement c'est ça le but de la chassidou, de nous faire comprendre que, on pourrait dire que l'intériorité de la loi est infinie. Et que tout dépend de où tu en es et où tu te branches et comment tu comprends les choses. Mais effectivement, si un homme arrive à une sensibilité telle que, par exemple, si il voit deux personnes s'enlacer dans la rue, il trouve que c'est un grand manque de tsniout et qu'un autre lui dit « Oh, mais arrête, t'es un fanatique, toi, mais je t'en prie aujourd'hui, qu'est-ce que c'est comme ça ?» C'est un dialogue de sourds. Pourquoi c'est un dialogue de sourds ? Parce que ça n'a aucun sens. Ils ne vivent pas dans le même monde. D'accord ? Parce que pour toi, ce qui est pas de sa noix, c'est véritablement de la débauche pornographique. Mais sans lasser, c'est mignon, c'est gentil, c'est jeune, c'est beau. Et pour l'autre, c'est la même chose. Pourquoi ? Que la pornographie. Pourquoi ? Parce qu'il a un niveau de sensibilité tel que cet acte-là en pleine rue, est il le ressent comme quelque chose de pornographique. Et donc, il n'y a pas de discussion possible entre les deux parce qu'ils sont pas branchés de la même manière, leur sensibilité n'est pas la même. Vous comprenez ? Comment ? Oui, c'est non seulement ça se gère, mais on a en vérité le devoir, chacun d'entre nous, de s'affiner de plus en plus jusqu'à ce qu'on arrive à ressentir des choses extrêmement, on pourrait dire, subtiles. Et c'est ce que la Torah attend de nous. Regardez, et je n'arrive pas à terminer tellement c'est important. Mais maintenant, je termine vraiment. Combien de fois je vous ai rapporté l'exemple qui, on pourrait dire, le baromètre même de la sensibilité d'un juif ? Les lois du Yichoud. L'interdiction de s'isoler, homme-femme, d'accord ? Mais selon les critères de la halakha, c'est fou. Un homme ne peut pas s'isoler avec une femme à partir de l'âge de 3 ans. Une femme ne peut pas s'isoler avec un homme à partir de l'âge de 9 ans chez l'homme. D'accord ? Et même si c'est de la même famille, même ma nièce, c'est-à-dire qu'un homme ne peut pas faire le babysitting de sa nièce qui a 4 ans. Personne ne peut comprendre une halakha pareille. Une tante ne peut pas faire le babysitting de son neveu qui a 10 ans, parce qu'il a plus de 9 ans. Personne ne peut comprendre une chose pareille. D'accord ? Non, oui, tu peux le comprendre à cause des médias si tu es d'accord. Mais on te demande de le comprendre pour toi qui es un homme respectable. En fait, qu'est-ce que cette halakha veut nous faire comprendre ? Que la sensibilité au niveau de la tzniout d'un juif doit être telle qu'il doit ressentir un problème, même s'il est extrêmement minuscule, mais on te demande d'avoir une sensibilité à fleur de peau, au point que le fait de te retrouver enfermé, on parle d'un vrai isolement, enfermé avec une petite fille de 3 ans, doit chez toi créer un problème de « non, ça ne se fait pas ». Et si tu ne le ressens pas, le problème il est chez toi, pas dans la loi. Comprenez ? Jusqu'où la Torah veut pousser notre sensibilité ? C'est un exemple, on pourrait dire, extraordinaire pour se mesurer tous les jours. Alors maintenant, entre les bons jours où on se serre la main, entre la bise entre hommes et femmes et tous ces trucs-là, je veux dire, c'est des trucs fous, regarde la halakha. Combien de gens comme nous, cachers, je veux dire, n'hésiteront pas à embrasser une tante, embrasser une nièce, embrasser un oncle, etc. Et quand je ne parle même pas d'embrasser un étranger. Mais c'est un copain, on se connaît depuis 20 ans. Non, non, je t'en prie, enfin, qu'est-ce que tu vas imaginer ? Enfin, Gérard, tu penses quelque chose quand je te fais la bise ? Non, Gérard ne pense pas et Simone non plus. Mais c'est ça tout le problème. C'est que quand Simone fait la bise à Gérard et que ni l'un ni l'autre ne ressentent rien, c'est justement ça le problème. Comment vous ne pouvez pas ressentir qu'une femme mariée n'embrasse pas un homme qui n'est pas le sien, même pour lui faire la bise ? Le problème n'est pas que tu l'embrasses, le problème est que tu ne ressens pas qu'il y a un problème. Là est le problème.
On déclenche un problème quand même, pour celui qui ne le ressent pas et qui ne sait pas quoi.
Oui, on doit l'aider un jour à être suffisamment sensible pour ressentir. Amen, le Rénirat, on arrête pour aujourd'hui.